Faire un tour rapide des présentations.
Alors, je suis Johanna Calès, coordinatrice de la formation Passerelle Toulouse-Tech.
Donc ici, j'ai fait la passerelle de l'année 2021-2022 et maintenant première année à l'ENSET.
Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai fait la passerelle l'année 2020-2021. À la suite de l'année, j'ai intégré l'École nationale de l'aviation civile en cursus apprentissage et du coup, je suis en alternance maintenant chez Airbus Hélicoptère.
Première question, ce serait qu'est-ce que la passerelle, si vous pouvez la décrire, comment elle fonctionne dans les grandes lignes, bah, simplement.
Donc la passerelle, c'est un dispositif de réorientation qui s'adresse aux étudiants qui ont validé une PACES ou maintenant une PASS ou une LAS et qui souhaitent se réorienter vers une école d'ingénieur, sachant que c'est un dispositif qui est également proposé à des étudiants qui sont déjà engagés en filière de santé également. Elle est portée par le consortium Toulouse Tech qui englobe des écoles d'ingénieurs de Toulouse et Occitanie-Ouest et qui est rattachée à l'Université de Toulouse. Donc, c'est une année de formation de niveau L2 qui, en fait, donc est une année de transition entre les études de santé et l'intégration d'une école d'ingénieurs. Et à la fin de cette passerelle, donc les étudiants ont un large choix d'écoles et de spécialités, puisqu'il y a au total 10 écoles qui font partie de ce dispositif, ce qui fait qu'il y a vraiment des spécialités ou des secteurs d'activité vraiment pour tous les goûts. Comment se passe l'affectation en école? À la fin de l'année, donc il y a un jury au cours duquel les étudiants vont présenter leurs deux premiers vœux devant donc des représentants des écoles. Et donc, en fonction du projet professionnel et également des notes que les étudiants ont eues au cours de l'année, ils seront affectés dans telle ou telle école.
Et du coup, si j'ai bien compris, il n'y a pas une réelle perte d'une année ou parce qu'on sait que la passe, au final, c'est pas trop en rapport, en tout cas, les matières sont pas trop en commun avec l'ingénierie. Et du coup, il n'y a pas de perte d'une année avec la passerelle.
Non. C'est ça exactement. Donc la passe, c'est la validation d'une L1, ensuite la passerelle, la validation d'une L2, et les étudiants entrent directement donc en L3, on va dire, pour commencer un cycle ingénieur qui dure 3 années jusqu'à l'obtention du diplôme.
Ok. Un étudiant, du coup, les résultats, ils sont à peu près début mai. Me semble pour la passe, donc qu'il n'est pas admis. Comment ça se passe pour pouvoir candidater? Quels sont les délais, les dates un peu butoirs?
Alors, pour les candidatures, elles se font sur la plateforme e-candidat. Là, tel que le système actuel que l'on a, on propose 2 sessions de recrutement. Donc, une qui se termine au 10 mars, où l'on donne là donc une réponse sur les candidatures d'ici la fin du mois de mars et une autre session qui se termine au 10 juin. Là aussi, on s'engage à donner une réponse concernant le dossier d'ici la fin du mois de juin, sachant que ça arrive d'avoir des candidatures tardives et on accepte aussi s'il y a des candidatures courant du mois de juillet, par exemple. Quand les étudiants reçoivent, par exemple, les résultats de leurs oraux, etc., en fonction des académies, on peut accepter des candidatures tardives.
Ok. Et donc, ça se fait bien hors Parcoursup, là, ce que j'ai compris.
Tout à fait. C'est une plateforme vraiment à part. On a une procédure qui décrit étape par étape quels sont les pas pour soumettre la candidature. Et donc, vous pourrez transmettre le lien vers cette procédure pour que ce soit plus simple.
Si on continue un peu dans l'année, imaginons que l'étudiant il a été accepté, il se retrouve en L2. Est-ce que déjà il se retrouve en L2 avec des gens qui ont fait la L1 dans le cursus, un cursus ingénieur normal, ou pas du tout, il se retrouve pas avec eux?
Alors, en passerelle, il y a vraiment qu'un pool d'étudiants qui viennent de PASS ou de LAS.
Okay.
Donc, c'est une petite promo de 25-30 étudiants. Et après, par contre, quand ils intègrent les écoles d'ingénieurs, ils sont mélangés avec d'autres étudiants qui ont là suivi d'autres parcours.
OK. Quand on arrive à la fin d'une PACES, souvent on sait où une passe maintenant ou une LAS, on sait que c'est des années qui sont exigeantes. Et du coup, vu qu'il y a peu de matières qui sont communes, qu'il y a beaucoup de nouvelles connaissances à acquérir, est-ce comment vous les accompagnez dans cette réorientation? Parce que ça doit être difficile, j'imagine.
Alors, du coup, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est vraiment une année de transition au cours de laquelle les enseignements principaux vont être les mathématiques, la physique, l'informatique, pour justement faire une sorte de remise à niveau avant d'intégrer une école d'ingénieurs. Il y a aussi des enseignements donc en chimie, en anglais, le sport et des projets de groupe également qui sont notés. Donc, l'idée, c'est vraiment de revoir des bases dans toutes ces matières-là et en début d'année pour ensuite approfondir tout au long de l'année, faire que les étudiants développent des compétences. Après, il y a un volet qui est très important au cours de la passerelle, c'est le volet donc de construction d'un projet professionnel ou en tout cas de reconstruction puisqu'on parle déjà d'une réorientation. On sait que c'est pas toujours facile pour des étudiants qui ont fait une première année d'études de santé de finalement se dire qu'ils vont pas intégrer une filière de santé. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place au cours de l'année pour aider sur ce pan-là à reconstruire un nouveau projet professionnel. Donc il y a notamment des rendez-vous, plusieurs rendez-vous dans l'année qui sont organisés avec les responsables pédagogiques. Pour discuter du projet de l'étudiant, des questionnements qu'il peut avoir. Dans la même veine, il y a également donc un rendez-vous avec un coach professionnel pour essayer d'aiguiller au mieux l'étudiant. Et ensuite, il y a toute la partie choix des écoles et choix des spécialités. Donc là, sur le premier semestre, on organise des visites dans toutes les écoles du dispositif. Donc les étudiants qui sont en passerelle vont aller sur tous les campus. Justement pour voir l'école, pour voir les différentes options, spécialités qu'elle peut proposer, se projeter aussi sur une vie étudiante future. Et également, on organise deux temps interpromo par année pour que là aussi, les étudiants de la promo actuelle puissent rencontrer les alumni et voir un petit peu quel parcours ils ont eu, quelles difficultés ils ont pu rencontrer en entrant en école et comment ils ont fait pour faire face à ces difficultés. Donc ça, c'est un petit peu voilà pour orienter le choix des écoles. Et ensuite, donc il y a des actions plutôt sur la prise de connaissance des secteurs d'activité et du métier d'ingénieur. Donc là, les étudiants doivent faire 2 journées d'immersion en entreprise obligatoire au cours de la passerelle. 2 journées, ça reste court, mais ça permet quand même de visualiser quelles sont les missions quotidiennes d'un ingénieur, de toucher du doigt un environnement de travail aussi ou un secteur d'activité. Et ensuite, il y a aussi un gros travail de projet en groupe où les étudiants vont faire des recherches sur des secteurs d'activité ou sur des métiers spécifiques. Ils vont ensuite présenter donc devant tous les camarades et ça permet aussi d'enrichir les informations sur les différents secteurs d'activité et les différents métiers qui peuvent être possibles une fois diplômés.
J'ai compris qu'il y avait différentes écoles. Et là, vous m'avez dit un peu comment ça fonctionnait avec des stages, mais est-ce que les différents, par exemple, métiers, qui différents secteurs d'ingénierie qui sont disponibles en fonction des écoles, ce seraient lesquels?
Ça va être vraiment très varié. On va voir l'aéronautique et l'espace, surtout étant donné qu'on est dans la région de Toulouse. Oui. Ensuite, il y aura quand même des secteurs qui peuvent rester en lien avec la santé. Notamment, il y a des filières d'informatique en lien avec la santé ou tout ce qui va être filière de génie biologique où on garde quand même ce lien avec la santé. Ça peut être de l'agroalimentaire, de l'énergie, environnement, tout ce qui est bâtiment, travaux publics. Après, il y a certaines écoles qui forment des ingénieurs un peu plus généralistes. Voilà, il y a vraiment un large panel de secteurs et de disciplines qui sont enseignées en fonction des spécificités des écoles.
D'accord. Après cette L2, du coup, il reste 3 ans pour arriver jusqu'au master et valider le diplôme d'ingénieur, ou c'est différent?
Donc en fait, donc il y a pas ce système de master entre guillemets. C'est le après la L2, donc on intègre ici en passant par la passerelle un cycle ingénieur de 3 ans, et donc on arrive à un diplôme d'ingénieur qui est accrédité par la commission des titres d'ingénieur. Donc c'est effectivement équivalent à un bac plus 5, mais c'est différent du master.
Et d'ailleurs, j'avais une petite question. C'est est-ce que vous remarquez que les étudiants, ils continuent en fait à se diriger dans des écoles qui sont toujours liées à la santé, ou finalement ils découvrent d'autres domaines et justement ils arrivent à se détacher de leur première voie entre guillemets?
Alors ça va vraiment dépendre des profils des étudiants. Il y en a qui, effectivement, ont plus de mal à couper avec cette idée de travailler dans un cadre qui n'est pas du tout en lien avec la santé. Donc, on a des étudiants qui, dès le début de l'année, savent qu'ils veulent entrer dans une école où c'est qu'il y aura, par exemple, du génie biologique ou des filières comme ça. Il y en a d'autres qui, au contraire, préfèrent vraiment couper et construire un projet professionnel sur quelque chose de totalement différent. Ça dépend vraiment, je pense, là, des profils, des personnalités des étudiants et du vécu personnel aussi.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter qui vous semble important et qu'on n'a pas évoqué
Alors, il y avait la question peut-être des débouchés. Bon, juste peut-être pour donner des chiffres un peu plus concrets, notamment en lien avec l'enquête 2023 sur l'insertion des jeunes diplômés des grandes écoles. On est sur un taux net d'emploi à moins de 6 mois qui est de 93,1% d'ingénieurs diplômés. Donc, il y a quand même un gros volume. C'est vraiment des métiers qui sont en demande par les entreprises et autres structures qui ont besoin d'ingénieurs. Et sur l'ensemble donc des grandes écoles qu'englobe cette enquête, écoles de commerce, etc., l'embauche la plus rapide, c'est celle des ingénieurs, avec 71% qui ont déjà des contrats avant même l'obtention de leur diplôme. Donc, c'est voilà, avoir un diplôme d'ingénieur, ça ouvre quand même des pas mal de portes, et il y a une facilité d'entrée sur le marché de l'emploi qui est plus importante que sur d'autres métiers.
Ok. Comment après, du coup, la passe? Donc, du coup, vous, c'était la passée. Vous avez vécu la passerelle. Est-ce que c'était dur de se remobiliser? Sachant que, pour tout vous dire, quand on parle d'ingénieur, j'ai beaucoup l'image de la prépa, qui est très compliquée. Après, comment vous l'avez vécu, vous?
Alors, pour moi, du coup, donc j'ai fait 2 PACES que j'ai validées, mais en fait, je me suis rendu compte pendant le confinement, ma PACES, que en fait, c'était pas ça que je voulais faire. Donc, j'ai cherché un moyen de me réorienter, donc c'était un choix personnel. Et donc, j'ai trouvé donc cette formation. Donc, en fait, comme ça a été expliqué précédemment, c'est un peu comme un retour au lycée, c'est-à-dire on revient sur des journées plus du 8h, 16h. Un planning, des évaluations en contrôle continu, une charge de travail qui est assez similaire au lycée, une petite promo, donc avec des professeurs qui, enfin c'est plus des amphis comme à la fac, c'est vraiment des professeurs, si on leur pose une question, voilà, on a direct la réponse. Donc c'est vrai qu'on a été très accompagnés pendant toute l'année. Le programme scolaire, en fait, on repart tous à zéro et au même niveau. On a tous fait PACES ou PASS ou LAS. Donc, on a tous 1 voire 2 années sans maths à fond, sans info. Donc, voilà, on repart à zéro et on repart bien, quoi. Donc, comme ça a été expliqué précédemment, on a des maths, de l'info, physique, anglais et sport. Et c'est vraiment une remise à niveau. Il n'y a jamais eu de, enfin, s'il y a des difficultés rencontrées, les professeurs sont là pour nous aider. Et voilà, c'est vraiment une ambiance de lycée plus que de fac. Donc, je pense que même si c'est difficile, parce que forcément, bah, il faut rattraper un programme de 2 ans de prépa pour être à jour quand on rentre en école d'ingénieur. Mais le fait que ça soit sous forme comme au lycée, ça facilite, voilà, le travail. Et forcément, c'est pas la même méthode de travail qu'en PACES, où on doit apprendre des choses sans parfois chercher à comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Donc, sur la charge de travail, voilà, ça se passe bien parce que la méthode de travail est, je dirais, intelligente et voilà, c'est agréable de travailler comme ça.
Ok.
Moi, je suis d'accord. Et puis, je rajouterais juste que aussi, ça change dans le sens où on y est plus en compétition en fait avec les gens qui sont dans notre classe, donc on peut développer des relations qui sont un peu plus saines qu'en PACES par exemple.
Oui.
Et donc voilà, c'est un truc en plus, mais sinon Alice a tout dit.
D'accord. Vous avez dit qu'il y a plus de compétition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre de places, par exemple, par école, et du coup qui dicte qui va aller où?
Alors oui, il y a le système du nombre de places. Et ça s'est toujours très bien réparti. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vouloir rester dans des écoles qui vont faire du génie bio parce que en fait c'était vraiment leur truc, cette filière-là. Il y en a qui vont comprendre que ben en fait non, ils vont chercher d'autres choses, donc ils vont aller dans des écoles qui font plus de maths, plus d'infos, d'autres qui vont complètement changer, ben, comme moi, je suis partie en aéronautique, d'autres qui sont partis en génie civil, pareil, ça n'a plus rien à voir. Et ça, c'est toujours très bien réparti. Pour expliciter un peu plus sur comment on choisit nos écoles, je pense que c'est important. Donc, comme Johanna l'a expliqué, on a un projet professionnel à construire tout au long de l'année qui se fait par ben, les visites d'école, qui se fait par faire les journées d'immersion d'entreprise, faire les projets pendant l'année, donc un pour découvrir les secteurs d'activité. Je sais que bah, après ce projet, il y a eu des déclics pour certaines personnes qui se sont rendues compte que, ben, en fait, il y avait des secteurs qui les intéressaient. Et puis, les métiers aussi. Et en fait, on a aussi, donc, ben, des coachings pour faire les entretiens de personnalité, etc. Et les accompagnants, les responsables de la passerelle qui nous accompagnent tout au long de l'année pour nous orienter. Et en fait, tout ce projet, en fait, est régi, en fait, selon notre motivation. Et à la fin de l'année, on a un oral devant donc chaque représentant des écoles pour présenter nos 2 premiers vœux. Et à l'issue de cet oral, on a les résultats pour savoir ben, dans quelle école on est pris. Tout le monde se retrouve en tout cas dans une école qui est complètement compatible avec son projet professionnel. Si quelqu'un a envie de faire de la bio, et ben il ira dans une école qui fait de la bio, quoi. Et on va pas l'envoyer dans une autre filière.
Ok. Du coup, si j'ai bien compris, le côté avec bah, différents stages où vous pouvez voir les métiers, moi en tout cas, je l'ai vu comme ça, ou en PACES. En fait, on n'a que des cours théoriques et au final, on voit pas du tout comment sont les métiers. Par exemple, on fait jamais de stage bah, avant en fait de réussir la première année. Donc,
Oui.
ça doit être un véritable point fort parce que moi, je sais
Oui.
que au début de la PACES, par exemple, je voulais faire médecine et au final, bah, en fait, avec les matières, je me suis rendu compte que ça m'intéressait moins que pharma. Mais au final, si je m'en étais pas rendu compte, sans stage, c'est compliqué de savoir ce qu'on veut faire.
Oui, mais ça a été aussi pour moi un déclic sur ouais, je me suis rendu compte que commencer dès maintenant, donc dès les études, donc l'alternance et rentrer dans le monde professionnel, en fait, ça avait beaucoup d'avantages et ça me plaisait beaucoup, quoi. Et je parle même pas des points positifs qui étaient, voilà, on est payé, etc. Certes, c'est des atouts, mais c'était vraiment pas ça ma première motivation. Ma première motivation, c'était vraiment de rentrer dans le milieu professionnel, ne pas faire que apprendre des cours et vraiment voir ben, le côté travail, le monde de l'entreprise. Dès l'entrée en école, quoi.
En fait, je voudrais juste savoir un peu qu'est-ce que vous faites là en école, un peu pour avoir une image concrète de bah, de comment se passe l'école d'ingé.
Du coup, moi, je suis à l'ENSET, donc c'est une école d'ingénieurs spécialisée qui propose 3 départements différents, les sciences du numérique, donc tout ce qui est maths, informatique, l'électronique et la mécanique des fluides. Donc moi, dès la première année, je suis rentrée au département de sciences du numérique. Et comme je l'ai mentionné, je suis aussi en alternance. Donc je suis à Airbus où je fais du développement. Et mes cours, du coup, ils sont en rapport direct avec ce que je fais en entreprise. Donc c'est vraiment de l'informatique, des maths, avec un peu d'anglais. On fait 2 heures d'anglais par semaine, avec 2 heures d'une autre matière qui est rattachée à la SHS. Et voilà. Mais du coup, ouais, moi, c'est plutôt l'informatique.
Est-ce que il y a des sortes de TP ou en fait, c'est plus des cours théoriques?
Non, alors en fait, on essaie de répartir, à l'ENSET, en tout cas, on essaie de répartir 50%, 50%. Donc, 50% de cours théoriques et 50% de cours de TD-TP. Donc, chaque matière, on a des séances dédiées à la pratique et à, enfin, des séances vraiment dédiées pour les exercices, qu'on puisse poser des questions. Pareil, nous, on est dans une promo de 30. Donc, on est en cours en salle. Et donc, on a la proximité avec le professeur. Et...
OK. Et toi, Alice, du coup?
Alors, du coup, moi, je suis à l'ENAC, à Toulouse. Donc, ma période d'alternance, c'est 3 mois. Ce qui fait qu'on a des bonnes périodes courtes, on passe les partiels et puis après on passe à une autre période qui est celle en entreprise. Donc ça, c'est assez bien. Niveau cours, donc on est très orienté en première et deuxième année, tout ce qui est les matières aéronautiques, les opérations aériennes, découverte de l'aéroport. On fait du simulateur avion, du simulateur du contrôle aérien. Et aussi, on fait de la physique et de l'informatique. Et toutes les matières que l'on fait, en fait, sont forcément appliquées à un sujet aéronautique.
OK.
On a aussi forcément beaucoup d'anglais, vu que comme plus diplôme d'ingénieur, on doit valider le TOEIC. Oui. Et à partir de la troisième année, on a des spécialités. Donc, soit une spécialité opération aérienne, soit une spécialité système informatique du transport aérien. Donc, il y en a une qui va être orientée vraiment full aéro et l'autre plus informatique. Donc, moi, je rentre l'année prochaine dans l'aspect orienté informatique.
Okay.
Et globalement, c'est vrai que le niveau aussi, en fait, la transition entre la passerelle et l'école, vraiment a été, la transition a été très bonne. J'ai pas eu de problème d'adaptation, de problème de niveau dans certaines matières. Parce que c'est vrai que l'ENAC, on part sur une école qui est assez spécialisée aéro, mais en même temps, on a un diplôme d'ingénieur généraliste. Donc, il y a beaucoup de matières que beaucoup de gens n'ont pas vues. Donc, ça a été un avantage. Et aussi, généralement, quand on arrive donc dans des écoles d'ingénieurs qui proposent l'alternance, la filière alternance, généralement, tout le monde repart du même pied. Parce qu'en fait, pas tout le monde est issu de prépa. Il y a des personnes qui sont issues de DIT, DUT, BUT, BTS, en fait, d'horizons différents. Ce qui fait qu'en fait, toutes les matières, on est quasiment tous remis à niveau, quoi.
Okay. Et là, dans le futur, plus ou moins proche, vous aimeriez travailler dans quel domaine ou même, est-ce que vous avez un métier particulier en tête?
Du coup, l'avantage de l'alternance, c'est qu'on a un peu... Comme les Alice, on a déjà un pied dans le monde professionnel, donc on a une idée assez concrète de ce qu'on veut faire après. Moi, par exemple, je sais que le poste que j'occupe actuellement en tant qu'apprenti, je vais y rester. Donc, je suis un poste de data analyst, donc comme je disais, je fais du développement, mais je touche aussi à plusieurs choses, du traitement de données, de la data science, etc. Donc, moi, je sais que je vais rester plutôt dans ce domaine en rapport avec mon diplôme en informatique.
OK.
Moi, du coup, je suis chez Airbus Hélicoptère et je fais aussi de l'analyse de données aux essais. Donc, c'est un milieu qui... C'est drôle qu'on soit tombés toutes les deux alternantes et data analyst. Mais c'est un milieu qui me plaît beaucoup. Et je vais normalement être embauchée l'année prochaine à mon poste.
Moi, du coup, je suis un peu extérieur au domaine. Et il consiste à quoi? Parce que je vois pas très bien.
Globalement, c'est de l'informatique. Moi, du coup, je suis aux essais, donc je dois traiter les données d'essais, donc des hélicoptères, en vue de l'amélioration pour les phases de qualification, ou alors pour l'innovation, en fait, tout simplement. C'est beaucoup d'informatique, du software, du code. C'est vachement orienté info pour le coup, cette spé. Mais à noter que pas tout le monde de la passerelle était alternant. Je pense qu'on doit être 5 aujourd'hui maximum. Donc voilà, que beaucoup, donc la plus grande majorité rentre en cursus initial. Mais c'est vrai que vu que de plus en plus de gens aussi s'ouvrent vers l'alternance, il y en a de plus en plus maintenant. Mais voilà, à noter ça, et à noter aussi que le fait qu'on soit data analyst toutes les deux, c'est vraiment une simple coïncidence qu'il y a plein d'autres postes dans plein d'entreprises différentes et pas que à Toulouse.
Oui.
Ouais. Et puis même, data analyst, c'est assez général, puisque moi, du coup, je fais un peu moins de traitement de données et beaucoup plus de un peu tourner maths statistiques. Là, je suis en train de travailler sur une application qui fait de l'optimisation mathématique, en fait. Donc c'est un peu plus
OK.
tourner mathématique, mais faut quand même que je développe, donc c'est de l'informatique, quoi. Donc même,
OK.
c'est pour ça que même en informatique, il y a quand même beaucoup de choses à faire différentes.
Oui, en plus, vu que c'est un métier, en tout cas, il me semble, qui est pas mal porté sur l'avenir, pour moi, c'est amené à que se développer dans les prochaines années. Donc, en plus, ça c'est lié, je trouve, à beaucoup d'enjeux. Je sais pas si peut-être que Alice, pour tout ce qui est aviation, qui est lié à l'environnement aussi, peut-être la sécurité et tout. Je sais pas ce que tu en penses
Oui,
les
complètement.
développements.
Je sais que moi, en fait, ils ont ouvert un poste d'alternant en tant que data analyst et que je suis la seule dans mon service. Et le but, c'est justement de développer un pôle dans mon service parce que oui, c'est un métier qui est amené à se développer. Je vois le nombre de fiches de poste qui sont ouvertes chaque année chez Airbus pour de la data science, la cybersécurité, tout ce qui est en rapport avec ça. Oui, c'est amené à se développer.
Okay. Donc, du coup, j'avais une question. Ça serait, je sais pas, vous avez du coup pas connu la réforme qui est au lycée, mais maintenant on est obligé, en tout cas souvent, vu qu'on est destiné, la passerelle est destinée à des gens qui ont fait PASS, souvent ils vont lâcher les mathématiques ou les garder du coup en maths complémentaires. Et moi, personnellement, par exemple, j'ai fait maths complémentaire et c'est quelque chose qui est quand même assez léger par rapport à la spécialité ou même maths expert. Et donc, est-ce que vous voyez que ça peut être un frein pour intégrer la passerelle ou après, vous m'avez dit que vraiment vous revenez aux bases, donc ça peut aller?
Alors, je sais que de mon année, après, du coup, moi, j'ai passé le bac en 2018 et j'étais en spé maths. Donc, je sais qu'il y avait des choses au programme de maths qu'on a refaites et que j'avais déjà fait en spé maths. Mais sinon, on repart forcément pas des bases-bases, hein, mais il y avait pas tout le monde qui avait fait l'aspé maths. Beaucoup avaient fait justement l'aspé SVT parce que ils étaient déjà motivés pour faire PACES. Donc non, je pense pas. Je pense que ça peut être que un plus, mais ça peut pas être un point négatif.
OK.
Ouais, je suis d'accord. Perso, j'avais pas fait l'aspect maths. J'ai passé mon bac en 2019, donc j'étais en SSVT, SP SVT. Mais ouais, comme l'a dit Alice, on repart assez. Je pense de bonnes bases en maths, c'est important, mais d'être super pointu SP maths du lycée, ça apportera pas grand-chose parce que de toute façon. Le début est assez lent pour
OK.
le l'année on se remet vraiment en jambes mais après bien sûr la cadence accélère parce qu'il y a un programme à rattraper mais le début je pense pas que ça fera beaucoup de différence quoi.
Ok. Si vous avez quelque chose à dire à un étudiant là en P1, il vient de finir son année, il essaye de trouver une filière un peu bah, qui lui plairait. Pourquoi vous conseillerez cette filière là, cette passerelle?
Bah pour moi, c'est la passerelle Toulouse Tech, c'est une opportunité de rebondir après la PACES, PASS ou LAS. Ça peut être rebondir suite à un échec. Il faut quand même avoir validé quand même la moyenne en PACES, PASS ou LAS. Mais c'est aussi, ça peut être aussi rebondir après une réorientation. Si t'es pas encore ce qu'il veut faire. Que le domaine de l'ingénierie peut potentiellement l'intéresser, mais qu'il sait pas encore quel secteur, ça lui laisse encore une année à se remettre à niveau et pendant une année déterminer vraiment ce qu'il veut faire et intégrer des écoles d'ingénieurs, les 10 écoles du groupe Toulouse Tech. On les a pas citées, mais du coup, il y a l'ENAC, l'INSA, l'ENSET, l'UPSITECH, l'ENSASET, l'ENSAT, l'ICAM, les mines de Tarbes, les mines et d'Albi et l'ISIS. Ce sont 10 écoles qui font de très bonnes écoles d'ingénieurs. Et je veux dire, c'est difficile aussi de les avoir après une prépa ou même après le bac, quoi. Donc, c'est vraiment une chance de pouvoir l'intégrer après une année de remise à niveau. Donc, moi, je dirais juste de foncer si, évidemment, l'ingénierie lui plaît, hein, voilà. Et que, c'est vraiment la seule condition. Il faut que ça lui plaise quand même de vouloir intégrer une école d'ingénieur. Et si vraiment ça lui plaît, qu'il fonce parce que c'est vraiment une chance, une opportunité.
Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Ouais, je rajouterais que on en a pas parlé, mais la vie étudiante en école d'ingénieur, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de la passesse où, enfin, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup d'amis, il y avait encore moins de soirées. Donc là, c'est vraiment, une fois qu'on rentre en école, c'est vraiment la vie étudiante comme on en rêve, quoi. C'est évidemment, il y a du travail, faut travailler, mais on a le droit aux soirées, on a le droit de rater les cours des fois sans se sentir coupable, on a le droit de pas travailler le week-end de temps en temps sans se sentir coupable, et ça fait vraiment un gros changement, quoi.
Oui, c'est, après ça ressemble, je pense que quand on arrive en P2 en médecine ou en pharma, c'est un peu similaire, on commence à découvrir la vie étudiante, c'est le même principe. Est-ce que l'une d'entre vous, même Johanna, là, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose qui vous paraît important à transmettre aux étudiants à la fin de la passe?
Juste, moi, pour compléter le dernier point qu'a relevé Casey, en école d'ingé, il y a aussi une vie associative. Hors soirée, il y a aussi une vie associative qui est très présente avec des clubs sur différentes thématiques dans diverses écoles. Et c'est vrai que en école, il y a cette chance-là aussi de pouvoir avoir plus de temps qu'en études de santé, par exemple, pour dédier un moment dans la semaine à une vie associative, une vie sportive, etc.
Ok.
Je sais pas si on l'a dit ou pas, je sais plus. Mais où ça se passait, en fait, les cours? On l'a dit ou pas?
Non, je l'ai pas spécifié.
Voilà, mais du coup, prends ce morceau-là. Mais donc les cours se déroulent sur le campus de l'INSA Toulouse et le campus de l'université Paul Sabatier à Toulouse également. Et la formation est gratuite. Il suffit de payer les frais de scolarité universitaire. Okay. Voilà. Et en fait, en tant que semi-étudiant, on va dire, en fait, sur le campus de l'INSA Toulouse, on a le droit, en fait, de participer à la vie associative de l'école. Je sais que moi, par exemple, j'étais inscrite dans deux associations, dans deux clubs sportifs. Et donc, j'y avais accès. Voilà.
OK.
Les frais d'inscription, du coup, dont parlait Alice, à ce jour, ils s'élèvent du coup à 170 euros l'année.
OK.
Et après, il y a entre 90 et 100 euros de CEVEC. Et du coup, une participation pour la vie étudiante et vie de campus qui est obligatoire pour les étudiants.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de connaître la passerelle et de ensuite en discuter avec les étudiants.